Bonsoir, comment allez-vous ? Franchement, je ne sais pas pourquoi on fait tant d'histoires avec ces tests, c'est pas compliqué. Il faut faire, pour aller à l'école, 3 autotests 2 jours avant ou 2 autotests 3 jours après. Si vous êtes positif, vous restez 7 jours à la maison. Sauf si votre test a été négatif les 3 jours précédents, les 2 jours d'après. En revanche, si votre test a été positif avant d'être négatif, moins de 10 jours à compter du 7e jour précédant votre test en pharmacie, il vous faut alors faire pratiquer un test PCR. Entre le matin du 7e jour, si vous avez moins de 12 ans, et la veille du 5e jour précédant le mariage civil de la pharmacienne avec le créateur de Doctolib. Seulement si vous avez entre 18 ans et demi et 15 ans moins le quart. Si vous n'avez pas Doctolib, ce qui est idiot, parce que c'est très pratique pour faire réparer son vélo, il suffit de cliquer sur roue avant, roue arrière, problème de freinage, crevaison, vitesse qui saute, c'est très complet et très bien fait, ne me dites pas que vous n'y arrivez pas, c'est vous qui bloquez. Bref, une fois rempli ce petit questionnaire, vous obtiendrez un rendez-vous dans un grand vélodrome. Sauf si vous aviez des symptômes avant la 3e injection précédant le 72e test. Je sais de source Vérissure, ma cousine urgentiste dans un grand hôpital parisien, la salle péridurale, mariée à un infirmier anti-vax qui dort dans la remise à vélo du fond du jardin, c'est là qu'il a eu l'idée de Doctolib, cet homme qui joue aussi de la viole de gambe est en train de mettre au point un carnet de vaccination, c'est-à-dire qu'au lieu de payer à l'unité, nous achèterons un carnet de 10 vaccins. Ça reviendra beaucoup moins cher le vaccin, même si on ne paye pas. Sauf si on a été vacciné moins de 60 minutes après la 5e heure suivant l'ouverture du vélodrome à 5h moins le quart avant la pandémie. Franchement, on peut pas faire plus simple.
Bonjour maman et petit bateau. Je m'appelle Thomas et je voudrais savoir pourquoi les minutes sont divisées en 60 secondes et pas en 100. Ce serait plus facile pour calculer. Merci, au revoir.
Denis Gage, mathématicien, auteur du Maître M-E-T-R-E du Monde, en livre de poche, il s'agit de l'histoire de la naissance du maître qui date de la Révolution. On ne mesure plus alors à partir d'une partie de l'homme, pied-pouce, mais d'une partie du monde, méridien-mètre.
Bonjour Thomas, tu veux savoir pourquoi 60 et pas 100 ? Alors là, maintenant on va faire quelque chose que sans doute tu adores, dis-je avec beaucoup d'ironie, sans doute, les mathématiques. 60 et 100, c'est des nombres. On va essayer, du point de vue mathématique, mais pas simplement du point de vue mathématique abstrait, mais concret, de voir quels sont les avantages et les inconvénients de 60 et de 100. Il y a une chose qu'on aime beaucoup, c'est pouvoir diviser que ça tombe juste.
Ah oui.
Alors, on va faire ensemble, si tu veux, le décompte. On va diviser 60 par 2. Ça va.
30.
On va diviser par 3.
20.
On va diviser par 4. 15. On va diviser par 5. On va diviser par 6, ça tombe juste.
10.
Donc 2, 3, 4, 5, 6. On va diviser ensuite par 10, ça tombe juste. Par 15, ça tombe juste. Par 20, ça tombe juste. Par 30, ça tombe juste. Voilà donc un nombre, 60, qui est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 et 30.
C'est beaucoup.
Extraordinaire.
Ouais.
Voyons 100, qui est, comme tu sais, un peu plus grand quand même, presque le double de 60. Divisons-le. On peut le diviser par 2, pas par 3. On peut le diviser par 4, on peut le diviser par 5, mais pas par 6. On peut le diviser par 10, on ne peut pas le diviser par 15, on peut le diviser par 20, on ne peut pas le diviser par 30. Voilà, ça c'est point de vue mathématique. Je vois quoi tu peux dire, bon, j'en ai rien à foutre des diviseurs. En quoi ça m'intéresse les diviseurs ? Moi ce qui m'intéresse, c'est 100, ça sonne mieux. Eh bien oui, mais justement, il y a... Avec 60, tu peux donc diviser l'heure en morceaux, en autant de morceaux. Tu peux prendre des morceaux de 3 minutes, ça va bien. Il y en a un nombre entier de fois. Des morceaux de 4 minutes, des morceaux de 5 minutes, des morceaux de 6 minutes, des morceaux de 10 minutes, ainsi de suite. C'est parce que 60 est beaucoup plus divisible que 100 qu'on choisit 60. Alors, ceci dit, dans l'histoire, revenons à la Révolution et au maître, au même moment où on fabriquait un nouveau maître, il y a un certain nombre de scientifiques, entre autres un qui s'appelle Gilbert Romeu, on a décidé qu'on allait justement changer le temps. Et on s'est dit, comme le système métrique est décimal, tout est en 10, on s'est dit qu'on va prendre un temps décimal. Et là, on a décidé que les minutes auraient 100 secondes, que les heures auraient 100 minutes.
Comme le mètre, en fait.
Exactement. C'est pour ça qu'on a fait un temps décimal, comme on a fait un mètre décimal.
Cela
il y avait
dit...
du 10 partout. Alors, il faut savoir que même à la Convention, pendant qu'il y avait la guerre partout, pendant qu'il y avait la Révolution, il y avait des gens qui se battaient, qui se battaient avec des mots, et il y avait des gens qui étaient les décimalistes qui s'opposaient aux douzimalistes en pleine, à la Convention. Imaginez que maintenant, on ait la même chose à l'Assemblée. On se dit que beaucoup de choses ont été perdues depuis.
Cette histoire de sang, ça a pris pour le maître, mais ça n'a pas pris pour le temps, en fait.
Et voilà, ça a pris pour le maître. Mais ça n'a pas pris pour le temps. C'est-à-dire qu'un des grands échecs de la Révolution, c'est changer le temps. Parce que changer le temps, ce n'est pas une mince affaire. Hein. C'est terrible, changer le temps. Vous savez, si imaginez quand on vous change le temps que vous avez des heures complètement différentes. Et ça n'a pas du tout marché. Ça a été un vrai échec. Hein. Ceci dit, ne croyez surtout pas que pour le système métrique, ça a été facile, le 10. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce que les gens, quand on leur disait « tu vas prendre 0,125 cm », terrible. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la moitié, de la moitié, de la moitié. Ce que les gens du peuple savaient faire, c'était prendre la moitié. La moitié, c'était la livre, l'autre moitié, c'était encore le quart, et l'autre moitié, c'était un huitième. Mais quand on a dit aux gens du peuple, vous savez, votre huitième, c'est 0,125, ils étaient paumés.
Normal.
Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de refus du système métrique pendant longtemps, à cause du système décimal. Maintenant, nous sommes, c'est notre lait. Le système décimal, on vit dedans. Donc rien n'est plus simple pour nous que le système décimal. Mais il faut savoir que ça a été une violence que de l'imposer.
Denis Gage est mort en 2010. Il avait écrit, entre autres, donc « Le maître du monde » et également « Un autre zéro » édité chez Robert Laffont. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Hervé Tiss est un habitué des petits bateaux et il est absolument passionnant.
Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir pourquoi le lait est blanc.
Oui, la couleur c'est fascinant parce que je vais commencer par le blanc en neige. On prend un blanc d'œuf qui est jaune, en fait, jaune tirant vers le vert, on le bat en neige et ça devient blanc.
C'est
pourquoi
vrai.
Ça devient blanc? C'est quand même bizarre.
Ouais.
Ou alors on prend un blanc d'œuf, on y fouette de l'huile qui est jaune et transparente, et là encore ça va devenir une préparation crémeuse et blanche. Pourquoi? Alors dans le premier c'est mousse, dans le second c'est émulsion. Alors émulsion c'est un très vieux mot qui a été introduit en français en 1560 par le chirurgien du roi, Ambroise Paré, un grand médecin. Il avait décrit sous ce nom-là toutes les préparations blanches et un peu épaisses, comme la mayonnaise, par exemple, ou voilà. Et il avait raison, comme le lait, parce que émulsion, ça vient de émulgere, qui veut dire traire en latin, et on traite les vaches pour avoir du lait, et le lait est blanc. Alors le lait, c'est de l'eau, mais c'est pas seulement de l'eau, il y a aussi des gouttelettes de matière grasse. Et quand vous mettez de la matière grasse dans l'eau, vous allez voir que ça peut blanchir si la lumière est blanche. Parce que si vous éclairez du lait avec de la lumière rouge, vous verrez que c'est rouge. Et si vous mettez de la lumière bleue, c'est bleu. Parce que, imaginez donc, vous prenez un verre, vous y mettez de l'eau. Pour l'instant, c'est transparent. Bon. Maintenant, vous allez mettre de l'huile à la surface. Donc, elle vient flotter. Et avec un fouet de cuisine ou une fourchette, vous allez touiller ça très très fort. Vous allez faire la dispersion de l'huile en gouttelettes. Et ces gouttelettes seront dispersées dans l'eau et vous allez voir que ça blanchit. Pourquoi? Parce que quand la lumière du jour, qui est blanche, arrive, elle traverse l'eau, elle arrive sur une gouttelette et elle se réfléchit comme dans un miroir. Et en fait, plus vous aurez de gouttelettes, plus ça sera blanc, parce que vous aurez beaucoup de réflexions blanches. Et voilà pourquoi, avec de la lumière rouge, ça serait rouge, parce que vous auriez beaucoup de réflexions rouges.
Donc si je comprends bien, la lumière traverse l'eau, ouais, mais ne traverse pas l'huile, elle se réfléchit.
Elle se réfléchit sur les gouttelettes d'huile, oui. Comme à la surface d'un étang. Et donc, vous voyez des reflets. Ce qu'on voit, c'est des reflets. C'est pas la couleur de l'objet, parce que l'huile, elle est plutôt jaune, l'eau, elle est transparente, et les protéines, elles ont pas de couleur. Donc, ce qu'on voit, c'est la lumière qui éclaire.
Le physico-chimiste Hervé Tiss a écrit « Mon histoire de cuisine » édité chez Belin. Et puis, tout à fait récemment, « Le terroir à toutes les sauces ». Il s'agit d'un roman philosophique et gourmand, avec 100 recettes d'Alsace, et c'est édité chez Nuée Bleue. Yeah.
C'était dit, c'était chanté, I got you babe, c'était Sonia Henchère en 2005.
Les petits bateaux sur France Inter.
Muriel Gilbert est correctrice dans un grand journal.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les points virgules existent puisqu'il y a des virgules et des points.
Bonsoir Léa, ta question me fait penser au chapitre 18 du livre de Muriel Gilbert qui s'appelle « À grands coups de poing, P-O-I-N-T-S ». Et ce livre lui-même s'appelle « Au bonheur des fautes ». Il est édité à la librairie Vuibert. Vous dites que c'est la confession d'une dompteuse de mots. Votre métier, c'est effectivement de traquer les fautes d'orthographe. Alors, et aussi la ponctuation, j'imagine.
Bien sûr, et aussi la ponctuation.
Vous pouvez répondre à Léa ?
Mais oui. Alors la ponctuation, c'est une petite douzaine de signes, hein. C'est minuscule, c'est microscopique à la limite. Et pourtant, ça éveille des passions. Alors j'ai l'impression que Léa n'aime pas trop le point-virgule. Commençons par le commencement. Elle n'a pas toujours existé, la ponctuation. Les premières traces de ponctuation remonteraient, selon certaines personnes, aux dramaturges, ceux qui écrivaient les pièces de théâtre de la Grèce antique et qui en cherchaient, par des petits signes comme ça, à indiquer aux comédiens les moments où ils pouvaient respirer en déclamant leur texte.
Ah.
Il y a d'autres gens qui disent que c'est venu des lettrés de la bibliothèque d'Alexandrie entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère. En tout cas, ça n'a pas toujours existé. Et puis, ce n'étaient pas les mêmes signes. En tout cas, la ponctuation aide à la compréhension du texte écrit. Le point d'interrogation, par exemple, ou le point d'exclamation, ou le deux points, signale des intonations, des intentions ou des émotions. Le point d'exclamation, la surprise, par exemple. La virgule, le point-virgule dont tu parles, ou le point, marque une pause ou une rupture. Une pause courte pour la virgule, un petit peu plus longue pour le point-virgule, ou une rupture un petit peu plus longue, et puis plus forte pour le point. La ponctuation, en fait, c'est un code. Il y a un grand maître de la ponctuation en France qui s'appelle Jacques Drillon. Il a écrit des tas de livres sur la ponctuation. Et il dit, tous les signes de ponctuation sont des raccourcis. Dans une énumération, au lieu de dire « et, mon cheval, et ma voiture, et mon tracteur », eh ben on a réduit la coordination à un petit signe, une virgule. Quand la virgule d'une énumération est posée entre deux termes, le lecteur sait qu'il faut penser « C'est un code qui veut dire « et ». Il en va de même pour les autres signes. Un guillemet signifie « je cite », par exemple. Alors, il y a des gens qui croient, du coup, qu'une virgule de plus ou de moins, c'est pas important. Ben, ils se trompent.
Ah bon ?
Ah, ils se trompent complètement. Et là, ça fait partie des choses que moi, je dois corriger en tant que correctrice quand il manque certaines virgules. Regardez. Entre les phrases « venez manger les enfants » et « venez manger les enfants »,
ah,
il y a quand
oui.
même un assassinat d'enfants et un repas anthropophage de différence, on est d'accord. Soit on appelle les enfants à manger, soit on appelle des gens à venir manger les enfants. Et c'est comme ça qu'une simple petite virgule peut sauver ou condamner toute une famille poussée. Venons-en au point virgule qui t'intéresse, Léa. C'est vrai qu'il peut jouer un rôle proche de celui de la virgule, dont il est une sorte de version longue. Mais il sert aussi d'articulation. Et dans certains cas, il peut vraiment vous sauver la vie, notamment dans des listes infinies. Parfois, on liste des gens qui sont à un colloque et machin, en costume rouge, puis machine, en robe verte. Et là, les points-virgules sont très très utiles, tu verras, si tu as l'occasion d'écrire des phrases aussi longues. Mais c'est vrai que c'est un signe mal aimé. Et j'ai l'impression que tu fais partie des gens qui n'aiment pas le point-virgule. Comme François Cavanna, par exemple, qui est un auteur que j'aime beaucoup et je trouve très rigolo, et qui a écrit un livre magnifique sur la langue française qui s'appelle « Mignonne, allons voir si la rose ». Et dans son bouquin, il dit, lui, que partout où il y a un point-virgule, on aurait mieux fait de mettre un point. Il déteste le point-virgule, il demande qui a inventé le point-virgule, à quoi sert-il, à rien, à embêter le monde, etc. Il dit que c'est un bon à rien... Et moi, à la suite de la lecture de Cavanna, pendant quelques années, j'ai fait comme lui. Je me suis dit, mais il a raison. En plus, je le trouve tellement admirable. J'ai arrêté de me servir des points-virgules, puis je les ai remplacés par des points. Et il a raison, ça fonctionne assez bien la plupart du temps. Mais finalement, dernièrement, je me suis réconciliée avec le point-virgule. Parce que, d'abord, j'ai commencé à le prendre en pitié. Il disparaît carrément sur Internet, dans les SMS. C'est tout juste si on voit des virgules et des points. Mais alors, les points-virgules disparaissent. Donc ça me fait mal au cœur. Et en fait... Finalement, en permettant de faire des phrases plus longues, le point-virgule, il permet de développer sa pensée. Et Jacques Drillon, le spécialiste dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit que son utilisation atteste un plaisir de penser. Moi, je trouve que c'est une belle médaille.
Les livres de Muriel Gilbert sont sur le site des Petits Bateaux. Le professeur Jean-Noël Fabiani, cardiologue, a dirigé le département de chirurgie vasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 10 ans et je voudrais savoir, dans une opération, comment le patient fait-il pour vivre le temps d'enlever le mauvais cœur et d'en mettre un nouveau ? Merci.
Bonsoir Jules. Alors là, Jules parle d'un changement de cœur carrément.
Alors Jules, il évoque la transplantation cardiaque manifestement. Alors c'est vrai que pendant le temps de la transplantation cardiaque, on va enlever le cœur malade et puis on va mettre un nouveau cœur qui est un greffon qu'on a prélevé et qui va remplacer ce cœur malade. Et puis, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il n'y a plus de cœur ?
On ne peut pas s'en passer.
Mais c'est vrai aussi lorsqu'on fait de la chirurgie cardiaque tous les jours où on arrête le cœur. Ça revient à peu près au même, si vous voulez. Il faut donc un système pour permettre aux patients de survivre. Et ce système, ça s'appelle le cœur-poumon artificiel. C'est une machine qui comporte des poumons, en quelque sorte, et puis l'équivalent d'un cœur, c'est-à-dire une pompe, que l'on va mettre en dérivation de l'organisme, avec des tuyaux. Donc on va mettre des tuyaux dans les veines, dans les artères, et le sang du malade va passer dans cette machine. Et pendant le temps nécessaire à l'opération, c'est cette machine qui va assurer la pression et l'oxygénation du patient.
Ça peut durer longtemps ?
Ça peut durer plusieurs heures, sans aucun problème. Et même maintenant, avec les nouvelles machines que nous avons mis au point, on peut utiliser ce genre de système pendant plusieurs jours. Et ça a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est monsieur et madame Gibbon qui ont inventé la première machine, grosso modo, disons, pendant la dernière guerre mondiale.
Mais alors, professeur Fabiani, si on a inventé une machine qui peut, pendant un temps donné, vous dites plusieurs jours, remplacer le cœur et les poumons, c'est pas un peu le chemin du cœur artificiel ?
Mais évidemment, c'est le chemin du cœur artificiel. Et d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle une assistance circulatoire. Ce sont des machines qui nous permettent d'attendre lorsque le malade ne va pas bien du tout et que son cœur est totalement défaillant, d'attendre un greffon cardiaque. Et si jamais il ne peut pas avoir de greffon cardiaque, une machine, alors qui va être encore plus sophistiquée et qui va être ce qu'on appelle un cœur artificiel.
Et quand vous faites une transplantation, vous mettez combien de temps ?
En général, la transplantation, il faut que ce soit fini dans les 4 heures. Entre le moment où on prélève le cœur chez le donneur, où il revient souvent par avion, hein, le cœur, parce qu'on le prélève parfois dans une ville différente de celle où on fait la transplantation, eh bien, on le conserve dans la glace là pendant ce temps-là. Et puis, quand on arrive dans le service où on fait la transplantation, eh bien, on va sortir le cœur de sa glace, on va le coudre, et il faut que tout soit fait pour être bien dans les 4 heures.
Vous êtes combien de chirurgiens sur une affaire comme ça ?
Ah bien, on est plusieurs chirurgiens. Il y a celui qui va faire le prélèvement, et puis il y en a plusieurs qui sont pour préparer la transplantation. On est 3-4 chirurgiens.
Comment vous faites le passage de la machine au nouveau cœur ? Comment ça se passe ?
La façon de faire est très très simple, en fait. On a raccordé les artères du donneur et du receveur, bien entendu. Et donc, le sang peut à nouveau retourner dans ce greffon que l'on vient d'implanter, qui était vide jusqu'à présent. Mais on fait revenir le sang, on enlève les bulles d'air qui pouvaient se trouver à l'intérieur, et le seul fait que le sang chaud revienne à l'intérieur du greffon, le greffon va commencer à fibriller, on va donner un petit choc électrique pour lui redonner une autonomie en quelque sorte, et il va repartir.
J'adore la modestie du professeur Jean-Noël Fabiani, c'est très facile, oui bien sûr. Le professeur Jean-Noël Fabiani a écrit chez La Martinière Jeunesse, La médecine racontée aux enfants. Ce livre est absolument passionnant à partir de 9 ans.
Les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers. Je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau. Je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions.
C'était Laurent Barden et Bertrand Belin, oiseau, choisi par Jean-Baptiste Audibert pour les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Maë, j'ai 10 ans, j'habite à Puget-Ville et je voudrais savoir pourquoi les perroquets arrivent à parler alors que les singes n'y arrivent pas et que c'est l'espèce la plus proche de l'homme. J'espère sincèrement que vous me répondrez. Merci d'avance. Bonne soirée.
Merci Maë pour cette question. Vous êtes docteur en éthologie, Agatha Liévin-Bazin. Vous aimez la vulgarisation scientifique, ça tombe bien pour nous au petit bateau. Et vous avez créé un blog qui s'appelle lenidepie.com. Alors elle se demande, Maë, pourquoi les perroquets arrivent à parler et pas les singes alors que les singes sont plus proches de nous ?
Eh bien, c'est une très bonne question, Maë. Il y a plein de scientifiques, notamment dans les années 40-50, qui se sont posés la question. Parce qu'il y a toute une vague d'expériences où des éthologues ont essayé d'apprendre, par exemple, aux chimpanzés à parler. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était mécaniquement impossible. En fait, ce qu'il se passe, c'est que nous, au niveau de notre gorge, on a ce qu'on appelle le larynx. Le larynx dans lequel on trouve les cordes vocales qui vibrent avec l'air qui passe dans notre gorge et qui permet de produire des sons, des mots articulés que l'on peut produire. Or, il se trouve que chez le chimpanzé, mais c'est aussi le cas chez l'enfant humain de moins de 6 mois, le larynx est trop haut dans la gorge. Et c'est-à-dire que, juste, ça ne fonctionne pas. Même des chimpanzés qui ont les capacités cognitives, intellectuelles d'apprendre des mots, peuvent pas le produire mécaniquement, c'est impossible.
Ils sont pas outillés.
Exactement. Le larynx est vraiment trop haut. Chez l'enfant humain, ce qui se passe, c'est que le larynx descend dans la gorge, et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut commencer à articuler des mots. Alors ça a un avantage d'avoir le larynx très haut, notamment, et chez le bébé, il l'utilise très bien, il peut respirer et boire du lait en simultané. Il n'y a pas ce problème d'avoir une voie respiratoire, une voie pour l'alimentation.
D'accord.
Voilà. Et les chimpanzés peuvent le faire aussi. Je l'ai appris récemment aussi, et c'est, voilà, il y a son utilité. En revanche, les perroquets, eux, alors ils sont équipés différemment. Ils ont un pharynx, mais ils n'ont pas de corde vocale. Alors là, on peut se dire, comment ça se fait ? Pourtant, les perroquets, ils parlent très bien, ils imitent la voix humaine. Eux, ce qu'ils ont, comme tous les autres oiseaux, c'est un organe particulier qui s'appelle la syrinx. Et la syrinx, alors c'est un joli nom, c'est, à la base, c'est un mot qui désignait une flûte de Pan, il me semble. Donc, il est question d'air, il est question de musique. Et en fait, la syrinx, c'est vraiment un organe qui a deux branches, qui mènent vers les bronches, vers les poumons, et qui permet à l'oiseau de faire deux sons différents en simultané. C'est assez incroyable. Et ils peuvent aussi faire des sons très longs, sans reprendre leur souffle. En plus de cette syrinx qui donc compense l'absence de cordes vocales chez les oiseaux, les perroquets notamment ont une langue assez épaisse. Et en bougeant la langue, parce que nous aussi, la langue, le palais, même les lèvres,
c'est pas mal,
jouent pour prononcer les mots que l'on veut utiliser. Et donc voilà, les perroquets savent imiter notre langage, nos mots, grâce à la syrinx, leur langue. Et en plus de ça, on s'est rendu compte, comme beaucoup d'oiseaux, ils ont une zone du cerveau qui est dédiée à l'apprentissage des chants, des cris. Et les perroquets ont une couche en plus. Donc on pense que ce sont des super imitateurs et qu'ils ont plein de choses dans le cerveau pour copier et imiter les sons.
Comment vous écrivez syrinx ?
S-Y-R-I-N-X.
Ça peut être utile. En tout cas, ce qui est intéressant, parce que c'était peut-être ça qui préoccupait Maë, c'est que ce n'est pas qu'il n'est pas capable intellectuellement, c'est qu'il n'est pas équipé.
Tout à fait. Et après, voilà, ça ne veut pas dire que les chimpanzés ne sont pas intelligents, pas du tout. C'est juste qu'eux, au niveau de leur communication, ils n'ont pas besoin de mots comme nous. Mais ils font plein de cris très différents, les chimpanzés. Ils ont même un rire. Ils ont plein de cris très différents pour communiquer où ils sont, qu'ils utilisent à certains moments de la journée, etc. Mais pas de mots.
Ils ont une belle gamme.
Tout à fait.
Voilà, deux perroquets sinon rien. Agatha Liévin-Bazin, vous retrouverez les références de son blog sur le site des Petits Bateaux. Maintenant que nous savons pourquoi les perroquets parlent, savez-vous pourquoi nous, humains francophones, nous disons « mal barré » ou « attire l'arigot » ou « mener une vie de bâton de chaise » Attention, l'expression n'est pas « barreau de chaise », mais bien « bâton ». Et quelles sont les chaises qui ont des bâtons? Eh bien, les chaises à porteurs. Ce sont justement les bâtons qui permettent de porter. Et ces bâtons, avec leur siège et leur porteur, allaient partout, à toute heure, dans les coins les plus tranquilles, mais aussi les plus mal famés ou les plus festifs, et ce jusqu'au bout de la nuit, s'il le fallait. Pourquoi dit-on « attire l'arigot » ? Eh bien, ce nom un peu rigolo vient de quelqu'un qui ne l'était pas tant, en tout cas sa fonction, puisqu'il s'agissait de l'archevêque de Rouen. Au XIIIe siècle, cet Odon Rigaud offre à la ville une énorme cloche d'un poids inimaginable. Pour arriver à faire sonner cette cloche démesurée, que les paroissiens appelaient l'arigot, il fallait tirer et tirer et tirer sur la corde avec une énergie de forcené. Il y a encore beaucoup d'expressions comme celle-ci, expliquées par le psychosociologue Jean Epstein et merveilleusement illustrées par le dessinateur Zou. Dans les Dents du Bonheur, voyage au pays des mots et des expressions, édité chez Armand Collin. Podcastez les amis ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Julien Dumont, Stéphane Co, Marjorie Devoucou, Noël Bréham, nous espérons bien vous retrouver dimanche prochain comme d'habitude en direct à partir de 19h30.